Il est maintenant 19h30 ici à Paris. RFI Soir continue, c'est avec les dessous de l'Infox. Et vous, Sophie Malibaud, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Et bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans les dessous de l'Infox. Des images pyromanes pour désigner des images générées par l'intelligence artificielle, c'est le titre du livre réalisé par le philosophe Pierre Kasounoguès et l'artiste Gwenola Wagon. Leur travail met en lumière la façon dont les IA génératives changent nos vies en profondeur. On y revient dans un instant avec notre invité. Des images générées par l'IA de plus en plus invasives sur les réseaux sociaux, on en parle également dans nos chroniques avec Kaofisui d'AFP Factuel. Il épingle des vidéos mensongères accusant la France de tentatives de déstabilisation au Sahel avec des scénarios fabriqués de toutes pièces par l'IA. Grégory Genevrier de la cellule Infovérif de RFI évoque pour sa part une infox qui alimente les dissensions au Sénégal sur le conflit entre Israël et l'Iran. Vérification faite, c'est bien de l'IA. C'est donc faux, mais l'effet, lui, est réel si l'on en croit les commentaires. Mais tout d'abord, place à l'invité des dessous de l'infox. Comme chaque dernier vendredi du mois, nous recevons un chercheur de Géode, le projet de recherche de géopolitique de la datasphère qui rassemble toutes les disciplines susceptibles de s'intéresser au monde cyber, au numérique. Aujourd'hui, c'est un philosophe qui nous rejoint, Pierre Kasounoguès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Paris 8 et membre senior de l'Institut universitaire de France. Vous êtes l'auteur du livre « Images pyromanes » avec l'artiste Gwenola Wagon, un livre plein d'images surprenantes publié par UV Éditions. Vous vous intéressez aux nouvelles technologies et tout particulièrement dans ce livre aux images générées par l'intelligence artificielle, les IA images, pour aller plus vite. Alors, qu'est-ce qui conduit le philosophe à traiter d'un tel sujet ?
Alors, voilà, les IA génératives font partie des mutations technologiques les plus importantes. Et pour moi, les IA génératives, aussi bien sur les images que sur l'écrit, risquent vraiment de transformer nos formes de vie. Et en particulier, eh bien, du côté des images, notre rapport à la réalité, et du côté des IA génératives de texte, le rôle de l'écrit dans notre société, dans notre forme de vie.
C'est ce que vous interrogez. Et alors, votre travail est basé sur un usage théorique de la fiction, d'où le sous-titre du livre « Théorie fiction des images génératives ». Expliquez-nous votre démarche particulièrement.
Oui, alors je suis très soucieux de marquer la place de la philosophie des technologies, à la fois de lui donner une place et de la distinguer de celle de la sociologie. Et pour moi, le propre de la philosophie et ce qui fait à la fois son intérêt et sa difficulté aujourd'hui, c'est que la philosophie n'a pas de domaine empirique. Et pour moi, le grand problème de la philosophie, c'est de savoir comment parler du réel, c'est-à-dire aujourd'hui de la crise environnementale et des mutations technologiques, alors qu'elle n'a pas de domaine empirique. Qu'est-ce que ça veut dire que la philosophie n'a pas de domaine empirique ? Si je dis les IA génératives fonctionnent par apprentissage sur des bases de données, en fait, c'est un énoncé d'informatique. L'expert qui peut vraiment expliquer ça, c'est un informaticien, c'est pas moi, philosophe. Si je dis « nous sommes addicts aux IA génératives ou nous faisons 5 demandes par jour », etc., ça, c'est de la sociologie.
Ou de la psychologie.
Ou de la psychologie. Mais disons que la sociologie et la psychologie ont, dans le partage des disciplines, pour charge d'étudier empiriquement le rapport de l'humain à ces technologies. Donc, que reste-t-il au philosophe ? Qu'est-ce que le philosophe peut encore faire ? Et justement, pour moi, il ne faut pas essayer de faire de la sociologie inconsciente, sans normes, on pourrait dire de la sociologie de comptoir. Il faut revendiquer un domaine spécifique de la philosophie, et le domaine de la philosophie, c'est la fiction. C'est-à-dire que la philosophie va, par des fictions, des passages à la limite, des variations, être capable d'élargir le spectre, si l'on peut dire.
C'est l'étude des possibles, c'est
l'étude des possibles, exactement. Et dans cette étude des possibles, va prendre de la distance et pouvoir mettre en évidence des concepts qui seraient invisibles si l'on restait la tête dans le guidon. Et le deuxième point, c'est aussi montrer que d'autres formes de vie sont possibles et que nous ne sommes pas dans un espèce d'entonnoir qui nous conduirait inéluctablement à ces mutations technologiques et cette catastrophe environnementale.
Alors, côté fiction, vous avez imaginé deux personnages, Max et Norma, à la tête d'une agence immobilière que vous appelez Immobilière Agence. Les initiales font IA, comme intelligence artificielle. Bon, et c'est dans ce cadre de ce travail qu'ils usent et abusent des images IA. Comment est-ce qu'on peut résumer l'histoire ?
Alors, c'est effectivement la première partie du livre. Nous interrogeons en fait sur ce que c'est qu'habiter aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'habiter ? Habiter chez soi, habiter son quartier, habiter finalement son environnement. Et voilà, il y a cette expression très célèbre de Le Corbusier, les machines à habiter. Le Corbusier, dans les années 20, décrit les nouveaux logements comme des machines à habiter. C'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre. Et ce qu'on veut montrer, en fait, dans cette première partie, c'est que les véritables machines à habiter, aujourd'hui, ce sont les écrans. Et typiquement, je cherche un appartement, je vais regarder des petites annonces sur mon téléphone. Parfois, je vais même visiter l'appartement virtuellement. Si c'est une location de vacances, je ne vais même pas y aller. Je vais juste regarder des photos, des visites virtuelles. Et puis, disons que c'est une location de vacances, j'arrive, je m'installe. L'appartement est sinistre. Comment je fais pour m'acclimater ? Je sors mon téléphone et je regarde des vidéos et je vais passer le temps comme ça. C'est en fait mon téléphone qui médiatise mon rapport à cet environnement immédiat qu'est l'appartement ou la maison et en fait ce rapport à cet environnement au sens propre. Et ce qui nous intéresse, c'est cette fonction donc des écrans de médiatiser et de filtrer l'environnement.
Vous parlez du filtre justement comme d'une déformation cohérente de la réalité. En quoi est-ce cohérent ?
Le point de départ de ce livre et de différents projets avec Gwenola Wagon sont les incendies de 2022 dans les Landes, donc juillet 2022, un été caniculaire. 30 000 hectares ont brûlé dans les Landes, c'est-à-dire 30 km sur 10 km, donc c'est long. Et nous-mêmes, nous étions en vacances très près de cet endroit et nous avons donc commencé à étudier en fait les posts qu'envoyaient les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Donc il y avait énormément de posts, des gens qui se filmaient devant la fumée, des gens qui se filmaient angoissés, qui parlaient à la caméra, parfois qui dansaient sur la plage, des posts de pompiers aussi. Et ce qui nous a intéressé, c'était la façon dont les gens, les utilisateurs, surmontaient en fait cette situation angoissante, parce que c'était très angoissant et c'était très difficile à vivre. Il y avait c'était physiquement difficile à vivre cette fumée et angoissant. Eh bien, surmonter ces difficultés grâce aux réseaux sociaux. Et en particulier, ce qui nous a vraiment beaucoup intéressé, c'était ces images de gens qui se filmaient sur la plage sur un fond de fumée. Il y avait cette fumée qui faisait des couchers de soleil, effectivement.
Il y avait une esthétique.
Voilà, une esthétique. Et c'était en fait une façon de transformer ce nuage de fumée qui empêchait de respirer, était en général laid, eh bien, en le mettant sur Internet, de le transformer en un coucher de soleil exotique, paradisiaque, de transformer leur vie, transformer nos vies, en la mettant sur le réseau social. Et là, c'est vraiment un effet de filtre. Chacun sait, sur les différents réseaux sociaux, quand on met une photo, on peut appliquer un filtre, le filtre sépia, le filtre vintage, etc. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est que le fait même de poster sur le réseau social, c'est déjà un filtre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets une photo sur le réseau social, je transforme la situation. J'en fais un moment dans une page qu'on va pouvoir aimer, qui s'intègre dans une histoire. J'en fais quelque chose, ça c'est déjà un filtre. Et c'est cette fonction qui nous intéressait.
Et alors, vous évoquez le principe, est-ce que c'est un néologisme, le principe pyropictomane ?
Oui. Alors effectivement, c'est encore dans à propos des incendies de 2022, il y avait aussi beaucoup d'images de feu. Simplement, des arbres qui brûlaient. Et Gwenola, qui est artiste et théoricienne de l'art aussi, disait, mais c'est quelque chose, c'est un espèce de lieu commun du cinéma, hein, ces grands incendies dans Autant n'emporte le vent, dans le film Rebecca.
Et tous les films catastrophes.
Et Hitchcock, voilà, tous les films catastrophes. Et donc, on a proposé cette notion, pyropictomanie, c'est l'idée qu'il y a un plaisir pris dans les images de dissipation d'énergie, de consommation d'énergie. Et l'exemple, donc, le meilleur exemple de pyropictomanie, c'est la retransmission télévisée d'une course automobile. On voit des Formule 1 qui tournent tout l'après-midi. Qu'est-ce qu'on voit dans ces Formule 1? Ces Formule 1 qui tournent, c'est une extraordinaire dépense d'énergie. Et il y a un plaisir pris à ce spectacle. C'est au moins la question, hein, dans ce contexte de la crise environnementale. Est-ce que nous n'avons pas, par une espèce de dénégation, un plaisir à voir de l'énergie brûlée, hein, dans la course automobile, mais par exemple, est-ce que quelque chose que moi-même j'aime bien, le Tour de France, hein, finalement, quand je vois ces grimpeurs qui suent dans la montée de l'Alpe d'Huez, est-ce que ce qui me fait plaisir, ce n'est pas la dépense d'énergie qui, là, passe par le corps plutôt que par l'automobile? Et justement, dans les images d'IA, ce sont des images qui sont coûteuses en énergie. On considère qu'un prompt, c'est au moins la charge d'un téléphone. C'est-à-dire, c'est sans compter l'entraînement des machines, la charge d'un téléphone.
Plus la consommation de l'eau, etc.
Plus la consommation de l'eau, souvent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau, comme en Californie. Donc, ce sont des images qui sont environnementalement très coûteuse. Et finalement, produire des images d'IA, eh bien, est-ce que ce n'est pas une forme de pyropictomanie, hein? C'est-à-dire que ce sont des images qui montrent aussi la dépense d'énergie. Et le paradoxe, hein, c'est voilà, que c'est une difficulté pour tous les artistes, disons, eh bien, c'était dans ce livre de témoigner de ces incendies, de la crise environnementale, dont ils sont le symptôme, à travers des images qui coûtent elles-mêmes de l'énergie. Hein, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contradiction? Et cette contradiction, eh bien, qu'est-ce qu'il faut en faire, hein?
Parce que, pour revenir à l'exemple des incendies, la pyromanie, c'est une maladie. Alors, est-ce que la pyropictomanie, qui dérive de ce mot, c'est une addiction aussi?
Alors, voilà, après, pour moi, La philosophie des technologies, je ne veux pas rentrer sur un terrain moral.
Hein, dire qu'il y a des choses... n'êtes pas lanceur d'alerte.
Voilà, et dire qu'il y a des choses qui sont bien, qui sont mal. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de montrer l'étrangeté des formes de vie dans lesquelles elles nous poussent. Hein. Et la pyropictomanie, finalement, c'est étrange, hein, le fait de...
Oui, mais vous parlez quand même de dénégation du réchauffement climatique, dénégation du réel en général par les images générées artificiellement.
Oui, alors ça, je
donc
pense
ça, c'est quand même quelque chose que vous critiquez.
Le fait qu'il y ait une dénégation de la crise environnementale, je pense que c'est indéniable. Enfin, nous en faisons très peu, et en particulier, justement, ces IA génératives, elles sont fondées sur une dénégation. On peut parler, on a beaucoup parlé des images, mais on peut parler aussi de l'optimisme, hein, de ChatGPT. Par exemple, si on demande à ChatGPT, c'est la dernière partie du livre, si on demande à ChatGPT de nous parler de la crise environnementale, il est en général très optimiste. Et lorsqu'on lui demande de...
Il est techniciste? C'est-à-dire qu'il croit dans des solutions techniques?
Bien sûr, oui, bien sûr. Il est techno-optimiste et il est réglé pour l'être. Voilà, c'est un réglage, comme on sait, hein, ces IA génératives, elles sont nourries par des bases de données. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle en anglais un fine-tuning, hein, des réglages fins, qui sont faits par des humains et qui le poussent dans un certain sens, qui lui interdisent de parler de la violence et qui le poussent dans un sens techno-optimiste. Et ça, il y a deux sortes de biais. Hein. Il y a sur ChatGPT, par exemple, ou les autres IA de texte, il y a le fait que si on demande à ChatGPT d'écrire un article sur la crise environnementale ou par exemple le plastique dans les océans, c'est le thème de la dernière partie du livre, il va conclure sur une note optimiste. Mais si on lui demande d'écrire un poème, par exemple, sur un objet en plastique abandonné dans l'océan, il va aller dans un registre sentimental, en ignorant absolument la crise environnementale, ce qui relève de la crise environnementale, la décomposition du plastique en microplastiques, le fait que ces microplastiques entrent dans la chaîne alimentaire et finissent chez les humains. Et il va aller dans une autre direction qui va être de trouver quelque chose de sentimental, de triste dans cet objet en plastique qui a été utilisé, qui vogue sur les flots. Et là, c'est un biais qui est assez grave. Ça veut dire que si je suis étudiant, à chaque fois que je vais faire une dissertation de philosophie, si je la fais sur ChatGPT, eh bien, ChatGPT ne va jamais me parler de la crise environnementale. Et là, c'est un biais qui est plus grave, en fait, que le techno-optimisme lorsque j'interroge ChatGPT sur la crise environnementale. Lorsque ChatGPT conclut son article sur le plastique par une note optimiste, d'une certaine façon, c'est réfutable. Je le vois, je peux me confronter à cela. Lorsque c'est simplement une omission dans le cadre d'un poème, d'une dissertation, c'est quelque chose contre lequel il est beaucoup plus difficile de lutter.
Alors, concernant la question de l'inauthenticité, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans cette émission, dans nos chroniques, pour parler des vidéos dont on se rend compte et dont on est sûr qu'elles ont été générées par des intelligences artificielles. Vous écrivez, les images ne sont pas authentiques, non pas au sens où elles seraient mensongères, mais en ce qu'elles visent à sortir de l'opposition entre des images authentiques, consistant en des photographies supposées refléter la réalité, et des images fabriquées et qui ne seraient pas authentiques. Est-ce que vous pouvez expliciter, s'il vous plaît ?
Oui. Alors, le livre donc est constitué de différents chapitres qui sont des espèces de théories-fiction, des fictions autonomes. Et donc, il y a une partie sur les incendies, une partie sur Habité, une partie sur le plastique dont je parlais. Et cette partie à laquelle vous faites référence concerne en fait un projet antérieur, ce qu'on a appelé les anarchives.
Avec le suffixe privatif an, un peu comme anachronisme d'ailleurs.
Anachronisme et anarchie, et archive. Anarchive, dans les anarchives, il y a des archives sans autorité, d'où l'anarchie, et avec des anachronismes, voilà. Il s'agissait donc, pour un autre projet avec Gwenola, on a travaillé sur les archives d'un astrophysicien, Jensen, qui a pris beaucoup de photos d'éclipses. Et donc, on faisait un film et on a généré d'autres images de lui, on a agrandi les images existantes, on les a mis dans le film, et à la fin, quand on voyait les images, on ne savait plus nous-mêmes lesquelles étaient authentiques et lesquelles ne l'étaient pas.
Il fallait qu'il y ait des indices.
Certainement, un expert aurait pu nous dire « Ah mais là, dans cette image, l'éclairage, non, c'est pas possible en 1870. »
Et même, c'est ce qu'on s'évertue à faire en fact-checking,
voilà.
En fait.
Et nous-mêmes, on s'est aperçu, on avait demandé des daguerréotypes du désert, et on s'est aperçu qu'en fait, dans un coin de l'image, il y avait des traces de pneus dans le désert, ce qui n'était pas possible en 1870. Mais la texture de l'image était tellement bonne qu'on l'a utilisée longtemps sans s'en apercevoir. Et ce qui nous intéressait, c'est qu'en fait, l'image, elle faisait son effet malgré ses défauts. Et dans cette espèce de fiction, ce qui nous intéresse, c'est d'imaginer une situation dans laquelle l'image puisse être prise indépendamment de son rapport à la réalité. Ce rapport à la réalité, il n'a pas d'importance, en fait. Ce qui importe, c'est autre chose. C'est un effet qu'a l'image. Donc, voilà, il s'agit des archives de Jensen. Donc, on parle d'une situation historique. Mais est-ce que la même chose ne se répercute pas dans l'actualité ? Lorsque sont diffusées des images de gaz à plage, tout le monde sait que ce sont des faux. Mais est-ce que ces images, elles ne sont pas diffusées pour faire un effet indépendamment de ce rapport à la réalité?
Et c'est ce qu'on a beaucoup vu dans la campagne électorale aux États-Unis.
Absolument.
On a vu Kamala Harris avec toutes sortes de déguisements en communiste, avec des drapeaux rouges, etc.
Absolument.
Tout le monde savait que c'était de l'IA.
Voilà. Et il est possible pour nous qu'on entre dans une nouvelle problématique de l'image qui ressemblerait beaucoup plus à celle dans laquelle était prise la peinture avant l'invention de la photographie. C'est-à-dire la peinture classique, on sait bien qu'il y a des peintures qui représentent plus ou moins des événements historiques et puis des peintures qui sont imaginaires, disons. Et ces peintures, on peut les aimer, les admirer, indépendamment de ce rapport à la réalité. Elles font effet et le pouvoir à cette époque, commander des peintures en sachant qu'il ne s'agissait pas de représenter la réalité. Est-ce qu'avec les IA, on n'a pas la texture de la photographie, mais dans une problématique qui ressemble à celle de la peinture? C'est-à-dire où le but de l'image, c'est de faire effet, peu importe sa réalité. Le danger, il est, je pense, justement dans cette confusion entre deux problématiques. Et à la limite, est-ce que le fact-checking, le fait de vérifier l'authenticité de l'image, il suffit à annuler l'effet de l'image? Non. Et je pense que là, il y a un espèce de point aveugle de...
Un état de fait de l'existence de ces IA génératives, tout simplement, qu'on ne peut pas occulter. Elles existent et elles vont jouer un rôle.
Oui, puis un point aveugle dans la critique de ces images. C'est-à-dire, on montre qu'elles ne sont pas authentiques, mais est-ce que ça les annule quand même? Et comment faire pour les annuler? Et c'est, je pense, un vrai problème.
Et est-ce que vous leur accordez une part de réel?
Alors, ce qui nous intéresse, c'est plus l'effet qu'elles produisent et la capacité que semble avoir l'utilisateur d'Internet pour se détacher de cette problématique de la réalité.
Merci beaucoup, Pierre Kasounoguès. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez écrit avec l'artiste Gwenola Wagon chez UV Éditions, Images pyromanes, théorie fiction des images génératives.
Les dessous de l'Infox.
Le problème en matière d'information, c'est lorsque des publications faites d'images artificielles sont perçues et relayées comme des faits avérés. C'est ainsi que se propagent notamment des campagnes de dénigrement visant la France au Sahel, par exemple. On en parle avec Kaofi Soui, journaliste du service de fact-checking de l'AFP à Abidjan. Bonsoir Kaofi.
Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
Vous avez repéré deux vidéos qui circulent sur Internet et prétendent à tort que des espions français auraient été arrêtés tout récemment au Burkina Faso.
Oui, Sophie, des publications virales dans plusieurs langues, français, anglais, espagnol, clament haut et fort depuis début juin qu'un espion français du nom de Julien Moreau aurait été arrêté au Burkina Faso. Avant cela, on avait déjà vu, depuis début mai, des publications affirmer qu'une espionne soi-disant nommée Claire Dubois aurait été découverte. Mais nous savons qu'il s'agit en fait de fausses affirmations s'appuyant sur des photos et des vidéos générées par l'intelligence artificielle.
Oui, car vous avez retrouvé les créateurs de ces vidéos et ils ne s'en cachent pas.
Effectivement, on a retrouvé les premières vidéos qui présentaient ces images. Et là, ouvertement, les créateurs précisent que le contenu a été généré par IA. Mais plus que ça, ils indiquent aussi clairement que ces récits sont inventés. La vidéo originelle sur Claire Dubois explique ainsi qu'elle montre une intrigue fictionnelle pour éveiller les consciences. Celle sur le prétendu Julien Moreau est une création imaginaire, je cite, et les événements relatés sont purement fictifs et ne représentent aucun fait avéré.
Alors avant même de retrouver ces publications originales, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ?
Tout d'abord, les publications en question n'arrêtent pas de clamer que ces arrestations s'étaient faites en public. Dans les deux cas, le président du Burkina Faso lui-même, Ibrahim Traoré donc, aurait révélé le visage des espions au monde lors de conférences de presse filmées. On a recherché un peu en ligne et il n'existe bien sûr aucune vidéo en ce sens, alors que les publications affirment qu'elles sont très populaires. Plus largement, nous n'avons trouvé aucune source crédible et aucun article de médias parlant de ces arrestations pourtant censées être populaires. À titre d'exemple, lorsque quatre fonctionnaires français avaient été accusés d'espionnage et arrêtés en 2023 au Burkina Faso, la presse burkinabé et internationale s'était largement emparée du sujet.
Y a-t-il d'autres moyens, Kaofi, de voir qu'il s'agit bien de fabrication et non d'événements authentiques ?
Oui, quand on les regarde en détail, on comprend vite que les images ont été générées par intelligence artificielle car elles présentent des incohérences au niveau des mains des personnes et dans les écritures. Sans parler du fait que le prétendu Julien Moreau porte un uniforme où il est marqué US Army alors qu'il est censé être français.
Alors en fait, ces contenus ont été ensuite relayés sur les réseaux sociaux, débarrassés de la mention intelligence artificielle comme s'il s'agissait de faits réels.
Tout à fait, Sophie. En plus de ça, cette désinformation a été amplifiée par sa reprise sur le site Pravda, un média pro-russe qui présente ces histoires inventées comme des faits avérés et c'est extrêmement dangereux.
Alors peut-on dire que ce type de campagne malveillante est en augmentation ?
Eh bien, on a l'habitude de voir des narratifs comme celui-là émerger dans les États du Sahel. Le Burkina Faso accuse régulièrement la France et ses alliés comme la Côte d'Ivoire ou le Bénin de tentatives de déstabilisation. Mais là, la différence, c'est que ça ne vise pas que l'armée et l'État français. Ces récits inventés affirment que les deux espions, avant d'être soi-disant démasqués, se faisaient passer pour un journaliste et une travailleuse d'une ONG. Et ça, ce n'est pas anodin. Ce genre de fake news instille donc au mieux la méfiance envers ces professions, au pire, met une cible dans le dos de civils qui viennent aider la population locale.
Merci à vous, Kaofi Souhi. Alors, on signale à nos auditeurs que tout ce travail de vérification est à retrouver en détail sur le site de l'AFP Factuel.
Les dessous de la Fox.
Un calme précaire règne entre Israël et l'Iran depuis le cessez-le-feu de ce mardi, mais la guerre de l'information se prolonge à travers les réseaux sociaux et même elle s'étend géographiquement, provoquant des tensions entre pro-iraniens et pro-israéliens un peu partout dans le monde, notamment au Sénégal. On en parle avec Grégory Genevrier. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Sophie, bonsoir à tous.
L'infox que vous épinglez à présent recourt à des images générées par l'intelligence artificielle.
Oui, c'est notre rédaction en langue local à Dakar qui a lancé l'alerte. À en croire une vidéo diffusée sur Facebook et TikTok, une manifestation historique en soutien à la cause iranienne aurait eu lieu au Sénégal. Durant 8 secondes, retenez-le, c'est important, on y voit une foule de personnes à perte de vue réunies sur un boulevard en centre-ville. Certains portent des drapeaux iraniens ou sénégalais. En tête de ce cortège, un homme scande un slogan en wolof.
Iran moins Sénégal, Sénégal moins Iran.
L'Iran, c'est le Sénégal, c'est l'Iran. Une formule reprise par des centaines d'internautes.
Oui, sauf que cette manifestation n'est pas réelle.
Eh bien non, cette vidéo vue plus d'un million de fois a été entièrement générée par intelligence artificielle. Aucune manifestation pro-iranienne de cette ampleur n'a eu lieu au Sénégal. Visuellement, plusieurs indices nous ont mis la puce à l'oreille. La foule, d'abord, il y a beaucoup trop de monde, le boulevard est trop large. Certaines pancartes sont illisibles. Un drapeau du Sénégal est aussi mal représenté. L'étoile verte au centre est remplacée par une sorte de croix noire. Et puis si l'on zoome sur l'image, eh bien on remarque aussi plusieurs incohérences au niveau des yeux et de la bouche de certains manifestants.
Sait-on qui est à l'origine de ces images, Grégory ?
Oui, en cherchant l'identifiant TikTok visible sur certains extraits, nous avons retrouvé le premier compte qui a diffusé cette vidéo. Dans sa bio, il se décrit comme un créateur de contenu artificiel. Nous l'avons contacté et il confirme que c'est bien lui qui a généré ce clip. Certains utilisateurs mal intentionnés ont repartagé sa vidéo sans mentionner l'utilisation de l'IA à des fins toujours de désinformation.
Et cet exemple montre une nouvelle fois les dangers de la démocratisation des outils d'intelligence artificielle.
Oui, cet utilisateur explique avoir utilisé la version professionnelle de Google VO3. Cette intelligence artificielle permet de générer en quelques clics des vidéos de 8 secondes maximum, très réalistes avec une bande son intégrée, parfois en langue locale. L'abonnement est payant, environ 43€ par mois, mais il existe des moyens plus ou moins légaux de s'en servir gratuitement. Le rendu est tellement bluffant que certains détecteurs d'IA tombent dans le panneau.
Alors, si même les détecteurs d'IA se trompent, comment ne pas se faire piéger par ce type de contenu ?
Eh bien, le meilleur conseil, c'est de regarder attentivement les visages, les logos, les éléments textuels. Même si les outils d'IA s'améliorent de jour en jour, certains ont du mal à représenter des panneaux ou des drapeaux, comme on l'a vu. L'image et les couleurs sont aussi souvent trop parfaites, trop lisses. Et puis, il faut aussi analyser tout simplement le contexte et croiser les sources. Dans notre cas, si une telle manifestation avait eu lieu à Dakar, la presse sénégalaise et internationale en aurait forcément parlé.
Merci Grégory Genevrier. Une chronique à retrouver en images sur notre site rfi.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Théo Redeuil à la réalisation. Pour retrouver l'émission en ligne, ainsi que nos vérifications, je vous invite à taper Info Vérif RFI dans un moteur de recherche. On se retrouve ici même la semaine prochaine. Et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplin.
Absolument, Sophie Malibaud. Les Dessous de l'Infox à retrouver sur l'appli et sur le site internet de Radio France Internationale. Dans un peu plus d'une demi-heure, ce sera Afrique Soir avec vous, Sylvie Berruet. À la une, un pas important pour résoudre cette crise qui durait depuis bien longtemps entre le Rwanda et la RDC.
Oui, bonsoir. Le Rwanda et la RDC qui ont signé tout à l'heure un accord de paix qualifié et d'historique, hein, signature à Washington sous l'égide des Nations Unies, en présence de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. C'est une étape importante qui est donc censée mettre fin à 20 ans de crise à répétition et d'insécurité dans l'Est de la RDC. L'édition d'Afrique Soir sera largement consacrée à cet événement. Nous irons à Washington et puis à Kinshasa. Nous reviendrons également sur cet accord. Est-ce le bon cette fois? Car de multiples cessez-le-feu ont été conclus, mais aussi violés depuis 2021. Quels en sont les enjeux? Voilà donc une édition d'Afrique Soir largement consacrée à cet événement entre Kigali et Kinshasa. Dans l'actualité africaine, encore la répression des manifestations au Togo. Et puis après le choc des questions en Centrafrique, les autorités ont publié un rapport sur l'explosion d'un transformateur électrique qui a provoqué la mort de 29 lycéens en pleine épreuve du bac. Un rapport qui pointe plusieurs manquements.
Et c'est donc à suivre dans RFI Soir dans un peu plus d'une demi-heure maintenant.